Donc, bienvenue à tous au tout nouvel épisode du Balade Omni présenté par le JMF. Aujourd'hui, nous avons trois invités spéciales, dont les coprésidentes du GISA, qui est en fait le groupe d'intérêt en santé autochtone. Les filles vont animer le podcast avec moi aujourd'hui. Puis, on va accueillir Dr Sarah Bergeron, qui est médecin au Nunavik. Donc, vous vous doutez bien que nous allons aborder aujourd'hui pour l'épisode la pratique de la médecine au sein des communautés autochtones. Donc, bienvenue à vous les filles. Je suis vraiment contente de vous accueillir.
Allô, merci Allô. Beaucoup.
Donc, pour commencer le podcast, j'aimerais ça que le docteur Sarah Bergeron vous présente à nous. Donc, est-ce que c'est possible pour toi de te présenter brièvement? Parle-nous de toi et de ton parcours.
Oui, donc mon nom, c'est Sarah Bergeron. Je pense que ça, on l'a tous compris depuis le début de l'épisode. Moi, je suis médecin au Nunavik. Donc, le Nunavik, on en parlera plus tard, là, mais c'est séparé comme en deux côtes. Moi, je suis médecin exclusivement sur la côte de l'Hudson. Donc, je suis basée principalement au centre de santé Inuit-Civic à Pouvernitouk. Donc, je suis là depuis un peu plus que 2 ans maintenant. Puis, par rapport à mon parcours, j'ai fait mes études de médecine à l'Université de Montréal. J'ai fait ma résidence en médecine familiale à Maria, dans la baie des Chaleurs, en Gaspésie. J'ai commencé à travailler tout de suite après au Nunavik. Donc, c'est ma pratique exclusive depuis le début de ma pratique.
Sinon, qu'est-ce qui t'a poussé à orienter ta pratique plus vers les communautés autochtones?
C'est un intérêt que j'ai eu depuis vraiment longtemps. On est quand même chanceux dans les différentes facultés de médecine. Il y a beaucoup d'expositions là, en parascolaire, en activité à côté du cursus médical standard. Il y a beaucoup de congrès, beaucoup de conférences qui sont offertes même au sein même des facultés. J'avais assisté à plusieurs conférences de ce genre-là. À l'Université de Montréal, il y a aussi des mini-écoles de la médecine. Donc, j'avais eu la chance d'aller à Manawan pendant une journée avec certains collègues. Et je voulais continuer vraiment dans cette voie-là. Originellement, il y avait un stage qui se donnait à Wemontachi, qui était une communauté atikamek à peu près 1 heure de route de là-dessus, qui n'avait pas été remis en place. Mais moi, quand j'ai commencé mon externat, j'étais vraiment intéressée à faire ce stage-là. Donc, on a travaillé pour le remettre en branle. Donc, j'étais une des premières à pouvoir bénéficier de ce retour-là du stage à Wemontachi. Donc, c'était un 2 semaines. J'ai vraiment adoré mon expérience là-bas. J'avais aussi choisi la résidence à Maria dans la baie des Chaleurs par la proximité de communautés autochtones, donc communautés Mi'kmaq. Et je savais qu'en deuxième année de résidence, il y avait certains médecins qui pouvaient nous accompagner faire des demi-journées cliniques à Gaskapégiak, qui est la communauté juste à côté de Maria. Donc, j'ai vraiment été axée assez rapidement. Le Nunavik, c'est venu plus tard, dans le sens que je le considérais déjà. Je savais déjà que j'allais aimer un stage, mais j'étais vraiment en réflexion un peu... explorer un peu les différentes options là, dans cet axe-là. Et c'est vraiment à la résidence que j'ai voulu faire un stage au Nunavik, encore en sachant que j'allais aimer mon stage, mais vraiment dans une perspective de savoir est-ce que je voulais travailler à long terme là-bas. Donc, j'ai appliqué, j'ai pu avoir mon premier stage au Nunavik en juillet 2018 et j'ai vraiment adoré. Donc, j'ai appliqué pour le poste à l'automne même et me voilà depuis ce temps.
Oui, c'est super intéressant. Et on se demandait aussi, on voulait savoir, c'est quel genre de défi que tu peux rencontrer dans ta pratique au Nunavik que tu rencontrerais peut-être pas ici?
En fait, je pense que tous les défis, c'est aussi ce qui rajoute comme le côté stimulant de la pratique médicale. Donc, c'est sûr qu'il y a des enjeux qu'on voudrait que la pratique soit meilleure pour la santé des populations en tant que telle, mais il y a quand même des enjeux qu'on ne peut pas vivre ailleurs au Québec. Malheureusement, encore une fois, pour les communautés, mais au niveau médical, c'est très diversifié. Donc, comment on fonctionne là, sur l'Hudson, c'est un peu différent aux côtés de l'Ungava. Donc, libre à vous d'explorer pendant vos stages pour voir les différences. Mais à Pouvernitouk, à l'hôpital, c'est le seul hôpital de toute notre côte. Donc, il y a 7 villages sur la côte d'Hudson, 7 villages sur la côte d'Ungava. Il y a un hôpital à Coudjouac pour l'Ungava, un hôpital à Pouvernitouk pour l'Hudson. Tous les autres villages ont des dispensaires de santé, donc des petites cliniques où ce n'est pas des soins d'hospitalisation. On peut voir les urgences s'ils se produisent parce qu'il faut bien les accueillir quelque part, nos patients, mais ce n'est pas une aussi grosse urgence que qu'est-ce qu'on peut voir là, à Pouvernitouk. Donc, au niveau de l'Hudson, il y a des médecins seulement à Pouvernitouk, à Saluit et à Inukjuak. Il y a d'autres cliniques quand même, avec des médecins qui vont visiter une fois de temps en temps pour faire des cliniques, mais de façon ponctuelle. Donc, dans les autres villages, il n'y a pas des médecins de façon permanente du côté Inuit. Voilà. Pour ce qui est des médecins à Pouvernitouk même, on est en général 5 ou 6 médecins. Donc, il y a un premier médecin qui fait les rendez-vous, donc une clinique externe, comme à peu près on le voit n'importe où, à la différence que certains de nos patients ne parlent ni anglais ni français, donc on a besoin des interprètes à ce moment-là. Et après ça, on a un autre poste qu'on appelle le corridor, donc il y a du sans-rendez-vous. Par contre, la particularité du Nord et un des défis et intérêts, c'est qu'on est avec des infirmières à rôle élargi. Donc, nos infirmières peuvent aller faire une formation complémentaire qui est assez courte, mais vraiment comme intense et intéressante, qui nous permet, dans le fond, de décharger les médecins de plusieurs autres cas de santé qu'on doit voir au Sud et qu'au Nord, dans le fond, nos collègues infirmiers et infirmières prennent le relais. Donc, par exemple, des otites. Chez des enfants qui sont moins à risque, ça ne va pas passer par nous. Ça va d'abord être dû par l'infirmier infirmière. Ils font une première évaluation. Ils viennent nous en parler après ça au médecin corridor qui prend le relais pour la gestion des cas peut-être plus complexes ou qui dépassent leur cadre de pratique d'infirmier infirmière en rôle élargi. C'est vraiment une belle complémentarité. Le troisième poste qu'on a à Pouvirmitouk, on appelle ça l'infirmier de liaison. Donc, c'est la liaison entre l'hôpital et les dispensaires de santé où il n'y a pas de médecin. Donc ça, c'est un autre défi, c'est qu'en plus d'avoir des infirmiers en rôle élargi, on a des infirmiers en rôle élargi qu'on ne voit pas. Donc, ils sont carrément dans un autre village à des centaines de kilomètres. Donc, on n'a pas de contact nécessairement avec cette équipe-là infirmière. On a des contacts quand on leur parle au téléphone, en fait. Donc, la révision des cas va se faire au téléphone. Ils vont nous appeler sur notre téléphone de garde de médecin de liaison pour nous discuter de patient un tel qui vient pour douleur au ventre, pour problème de dos. Il va nous réviser le dossier, donc au niveau de ses antécédents, les médicaments, les allergies. Il va nous expliquer l'histoire après, puis il va nous expliquer leur examen qu'ils ont fait sur place. Donc, c'est vraiment une pratique très différente. C'est un défi en soi parce que des fois, c'est des gens qu'on n'a jamais rencontrés, les infirmiers et infirmières. Mais il faut quand même travailler en équipe puis s'assurer qu'on ait toute l'information en main pour prendre une décision en équipe qui est éclairée. Donc, c'est vraiment un gros partenariat. Donc, c'est super intéressant, mais c'est un défi en soi. Donc là, on a parlé déjà de médecin rendez-vous clinique externe, le corridor sans rendez-vous et la liaison. On a un quatrième poste qui est le médecin de département. Encore une fois, là, c'est d'autres défis. Donc, c'est un médecin d'hospitalisation. Donc, une hospitalisation au Sud, on connaît bien ça. Là, on va avoir des tournées de patients. On va revoir les mêmes patients pendant une semaine. C'est sensiblement le même concept. La différence, c'est qu'on n'a aucun spécialiste de façon permanente au Nunavik. Donc, quand on a besoin de parler à un spécialiste, encore une fois, on prend le téléphone, on prend notre boîte courriel, puis on échange des informations pour essayer d'obtenir les meilleurs soins pour notre patient. Il y a aussi des soins que malheureusement, on ne pourra pas compléter à Pouvirmitouk. Donc, c'est toute l'organisation du transfert à ce moment-là à Montréal, qui est notre hôpital de référence du côté de McGill. Donc, ça aussi, c'est un défi en soi d'arrimer tous les services autour de notre patient directement. Donc, ce n'est pas juste de remplir un document de consultation et d'attendre que le spécialiste revienne avec la consultation, mais c'est vraiment de faire l'ensemble des démarches pour trouver une réponse. Finalement, il y a l'autre poste qui nous reste, c'est le médecin qui est de nuit. Donc, un médecin qui va couvrir l'ensemble de l'hôpital de 9h à 9h. Donc, s'il y a quelque chose qui se passe à l'étage ou s'il se passe quelque chose au niveau des urgences, ou s'il y a un transfert en médévac, donc en avion ambulance à faire, ça va être le médecin de nuit qui va partir à ce moment-là. Ce qui amène à peut-être l'autre particularité, le défi supplémentaire, le transfert en avion. C'est un défi pour nous comme praticiens, puis pour nos patients aussi, mais pour nous, il y a beaucoup d'enjeux superposés à ça. D'abord, il y a des gens qui ont le mal de transport, donc quand même à considérer. On voyage quand même beaucoup moins en avion ambulance que ce que les infirmiers et infirmières vont faire en termes de nombre de transports. Mais quand même, on a certains médecins qui sont abonnés au gravol gingembre et en tout cas, on se comprend. Donc, il y a ça, mais il y a aussi toute la logistique, que ce soit d'avoir un avion qui est disponible, qui soit fonctionnel, que ce soit au niveau de la météo aussi. On peut trouver le temps long pas mal là, quand on a un gros problème dans un petit village de santé, qu'on veut absolument sortir le patient pour soit faire des soins supplémentaires à Pouvirmitouk ou même l'envoyer à Montréal. Donc, c'est toute une gestion de l'incertitude aussi à faire et aussi de garder le patient de façon sécuritaire en village. Donc, nos patients sont très, très patients parce que des fois, ils vont avoir un problème puis ils vont devoir attendre plusieurs jours là, avant de pouvoir sortir de leur village. Donc, c'est pas mal ça. Il y a énormément de défis là, de distance, de météo, d'organisation. Le fait qu'on soit une petite équipe soudée, par contre, ça aide vraiment beaucoup. Mais c'est quand même une pratique qui est très, très différente là, de ce qu'on peut voir au Sud avec toute l'interaction avec nos collègues et tout ça, la météo et la distance.
C'est vraiment intéressant pour vrai, là. Moi, honnêtement, j'avais déjà un petit peu entendu parler de la pratique dans le nord, là, puis comme c'est fou à quel point que comme la pratique est différente qu'ici en ville. Puis on a parlé un petit peu du projet EVAC, là, comme l'avion ambulance, si on, je pense que c'est comme ça qu'on peut l'appeler aussi, là. Est-ce que toi, tu en fais personnellement? Parce qu'on a fait un podcast justement avec Dr. Time, que lui en fait souvent. Puis je voulais savoir si toi aussi, tu étais impliquée.
Donc, il y a vraiment deux choses différentes, en fait. On a les MEDEVAC et EVAC. Donc, on a vraiment choisi deux beaux termes très confus, mais bon, on se comprend à l'interne. Donc, dans les deux cas, c'est des avions ambulances. La différence, c'est que notre MEDEVAC, en fait, le modèle d'avion, c'est comme un twin. Donc, c'est un tout petit avion qu'on essaye de transporter un seul patient à la fois avec des moyens du bord qu'on amène nous-mêmes. Là. Dans le fond, on a comme des sacs MEDEVAC. Donc, nous, on est sur ces équipes-là. On est sur l'équipe, dans le fond, que c'est les infirmiers et infirmières du centre de santé Nuit-Civée qui travaillent à l'hospitalisation, qui vont partir avec nous quand ils sont de garde pour aller chercher un patient qui a besoin de soins. Pourquoi je disais que souvent les médecins sont moins là, c'est qu'on va être là quand c'est des cas qui sont instables. Donc, il y a des cas qui ont peut-être besoin de soins médicaux plus urgents ou qui ont besoin d'un suivi parce qu'ils ont été intubés en village, par exemple. Mais par exemple, un patient qui a besoin d'être sorti rapidement pour évaluer une douleur au ventre, qui pourrait être une appendicite, par exemple, mais qui est très, très stable, n'a pas besoin d'un médecin dans l'avion en tant que tel. Donc là, à ce moment-là, les infirmiers et infirmières prennent le relais un peu comme un ambulancier, mais aérien, si on peut le dire. Donc, on fait vraiment, l'équipe de Inuit Civic fait les MEDEVAC à l'interne du territoire de Nunavik. Par contre, quand on doit envoyer nos patients à Montréal, là, c'est à ce moment-là qu'on va remplir une demande de Challenger ou de EVAC, qui va être notre gros avion ambulance qui est utilisé partout à travers le Québec. Donc, je ne suis pas sur l'équipe de EVAC au niveau provincial. Il y a certains médecins à Inuit-Civic qui, par leur expérience avec les MEDEVAC ou Nunavik, ont décidé de faire une pratique soit mixte ou de transiter vers le Challenger, mais ce n'est pas nous qui couvrons le Challenger normalement.
OK. Ah, c'est bon de faire la différence. On n'avait pas abordé ce sujet-là lors du podcast. Aussi, on voulait savoir, là, qu'est-ce que tu préfères faire dans ton travail? Là? Qu'est-ce qui te motive à chaque matin d'aller travailler avec les communautés autochtones?
Bien, il y a deux choses. Je pense qu'il y a vraiment comme la communauté, justement, et le travail en soi. Le travail en soi, comme tous les postes que j'ai nommés, en fait, plus tôt, c'est qu'on les change à chaque semaine. Donc, on a une pratique qui est très, très diversifiée, mais qui change aussi très rapidement. Donc, pour quelqu'un qui est très, très généraliste, qui aime ça vraiment changer d'air, on change aussi de village. Des fois, je suis souvent à Pouvernoutouk, mais mon autre village que je suis associée, c'est Iwuivik. Donc, je vais aller faire souvent des tournées là-bas. Ça change souvent. Donc, c'est ça qui est motivant aussi, c'est qu'à chaque matin, tu ne sais pas ce qui va te tomber dessus. Donc, ça peut être peut-être inquiétant un peu au niveau de la gestion d'incertitude. Par contre, c'est quand même quelque chose qui permet une bonne rotation là, dans ton horaire, puis on ne se fatigue pas à cause de ça. Donc, ça qui est motivant. Par rapport à la communauté, ce qui est super intéressant, c'est qu'on est une petite équipe, mais c'est aussi des petites communautés. Donc, le patient qu'on va voir à la clinique externe pour son rendez-vous de diabète et que la semaine d'après, on voit à l'urgence parce qu'il y a eu un accident ou il y a eu un problème de douleur au ventre, par exemple, mais c'est le même patient. On est capable de rapidement retrouver dans nos notes. Ah, je connais, lui. Je l'ai vu il y a comme un an et demi. Les patients apprécient ça aussi beaucoup de savoir que ça fait quand même un moment qu'on est au nord. Ça permet vraiment une belle complicité. On fait des liens vraiment rapidement avec les personnes. Notre patient qui est hospitalisé, peut-être que sa conjointe, c'est aussi notre patiente à l'externe. Donc, il y a vraiment une grosse continuité des soins. Malgré qu'on n'est pas 100% du temps sur le territoire, ça paraît quand même assez rapidement avec le temps. Donc, ça, je pense que c'est super bénéfique. Puis là, je parlais, mettons, d'une personne qu'on voit en situation d'urgence qu'on connaît déjà, mais l'inverse, c'est vrai aussi. Si on voit quelqu'un en situation d'urgence et on voit qu'elle est capable, après ça, de retourner dans la communauté, de faire des choses qui sont significatives, j'ai comme en tête une histoire en particulier là, d'une petite activité de thé qui a été prise sur le bord de la rivière après, quand la personne est revenue en village et qu'elle allait bien après ses soins à Montréal. Donc, tout ça, ça permet quand même de faire des liens avec les gens. Puis ça donne aussi beaucoup de sens au travail parce qu'on est capable d'avoir une vision directe de qu'est-ce qui est fait au centre de santé.
C'est vraiment intéressant. Puis je me demandais, dans le fond, tu as mentionné que justement, tu n'étais pas là la majorité du temps. Bien, tu y allais, tu revenais chez toi. Puis est-ce que la majorité des médecins font ça ou il y en a qui restent là-bas pendant toute l'année, par exemple?
Il n'y a personne qui reste là toute l'année. C'est quand même un travail assez exigeant dans le sens qu'on est la majorité du temps de garde. On ne comptera pas le nombre d'heures travaillées dans les dernières semaines, mais ça peut quand même aller rapidement. On a eu un code orange récemment, dans le fond, un code orange comme des besoins médicaux extrêmes. Mais c'est sûr que dans une petite communauté, tout le monde va rentrer, mais tout le monde, on est comme 5, là, fait que tout le monde, on était 6 à ce moment-là, mais tout le monde est rentré. Donc, ça devient quand même assez rapidement épuisant. Donc, normalement, comment ça fonctionne, encore une fois, de notre côté de l'Utson, les deux premières années de pratique, on fait un temps plein plus. Donc, c'est 34 semaines pendant l'année qu'on fait. Tout ça est, encore une fois, un minimum. Là, les gens peuvent en faire plus, mais souvent, 34 semaines, les gens commencent à être pas mal fatigués. Après 2 ans, on peut demander de prendre un temps plein régulier, qui est un 22 semaines par année. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont être sur un poste de 22 semaines, mais qui vont en faire plus quand même, mais c'est quand même un peu plus flexible que le 34 semaines fixe. Surtout avec comme les autres engagements au sud, on dit au sud, en tout cas, dans le sud de la province, qui sont là aussi encore. Là. Donc, souvent, les gens vont faire ça. Il y a quelques infirmiers et infirmières que dans le fond, ils sont en couple avec quelqu'un de la communauté depuis vraiment longtemps. Donc, ils ne vont pas travailler 100 % du temps, mais ils vont rester sur le territoire entre. Mais mis à part ces cas-là, la majorité des gens vont finir par quitter quand même quelques semaines. Là, c'est sûr qu'avec la pandémie, c'est différent, mais même les gens de la communauté là, aiment ça sortir du Nunavik et aller faire leurs activités à Montréal. Donc, ces vols-là nord-sud sont quand même très prisés. Donc, voilà, les gens, normalement, ne restent pas 100 % du temps sur le territoire. Le plus petit poste qu'on a à date dans notre équipe, c'est un poste qu'on appelle à temps partiel. Donc, c'est un poste de 18 semaines dans l'année. Souvent, c'est pour des gens qui sont peut-être en transition vers un autre type d'emploi ou qui ont des jeunes familles et qui veulent garder quand même leur pratique au Nunavik. On essaie d'adapter pour garder l'expertise nordique dans l'équipe quand même. Donc, on est tout le temps en discussion avec ça, avec l'équipe. On essaie vraiment d'avoir de la rétention pour garder cette expertise-là sur le territoire.
Good. C'est le fun de voir que vous avez beaucoup de diversité dans les postes disponibles. Sinon, on va changer de sujet un peu, là, mais après quelques recherches, on a découvert que, dans le fond, vous étiez une militante pour les changements climatiques. Puis on se demandait quelles actions tu faisais dans ta pratique quotidienne pour lutter contre les changements climatiques, justement.
Mais ça, c'est un autre des points que je n'ai pas mentionné encore, mais sur mon choix de la pratique nordique, là, je suis quelqu'un qui aime ça vraiment beaucoup, aussi, m'impliquer dans la communauté. En général. Donc, je voulais vraiment me libérer du temps quand même pour faire d'autres projets communautaires, d'autres projets avec des citoyens, entre autres. Moi, je suis impliquée, entre autres, là, dans la Planète s'invite en santé, qui est un regroupement de professionnels de la santé qui agissent pour les changements climatiques, et aussi dans l'Association québécoise des médecins pour l'environnement, que le nom dit pas mal, ça fait quoi? donc, je suis sur ça et d'autres choses aussi. C'est un enjeu vraiment quand même au Nunavik, dans le sens qu'on est un petit milieu, donc on s'attendrait à ce que des changements puissent se faire quand même assez facilement. Mais encore une fois, il y a beaucoup d'enjeux de distance. L'approvisionnement, c'est très difficile. On n'a pas de compost. Nous, on en a un dans notre bloc appartement, parce qu'on a du vermicompost. Tout est possible. Mais il n'y a pas de collecte de compost, il n'y a pas de recyclage. Dans le fond, nos déchets sont dans des sacs vidanges qui vont être brûlés plus tard au dépotoir. Ceci dit, le dépotoir est quand même organisé un petit peu comme un magasin tout usage, des zones de pneus, des zones d'anciens véhicules. Les gens vont quand même récupérer du matériel, mais c'est quand même un enjeu en soi. C'est juste la base qu'on assume être facile au sud et pas facile au nord. Donc, une petite étape à la fois. Récemment, là, je parlais avec mon équipe de pharmaciens pour revoir tous nos inhalateurs, là, qu'on sait que certains types d'inhalateurs sont plus polluants que d'autres, donc ils vont vérifier tout ça. Mais c'est quand même une grosse chaîne. Fait que, au quotidien, des petits morceaux à la fois, hein, on va y arriver, mais il y a quand même moyen de s'impliquer un peu plus aussi ailleurs au niveau provincial pour essayer de voir un peu plus de façon systémique qu'est-ce qu'on fait au niveau québécois. Donc voilà, un petit peu mobilisé à travers tout ça, en plus de la pratique nordique.
Oui, c'est intéressant de voir un petit peu la diversité de pratiques qui n'est pas seulement axée vers les communautés autochtones, mais pour revenir un petit peu à ça, à notre sujet principal, on voulait savoir, est-ce que tu aurais des conseils pour les futurs soignants pour qu'on soit capable d'offrir les meilleurs soins possibles aux patients des communautés autochtones?
Mais il y a vraiment beaucoup de choses dans cette magnifique boîte de conseils, la boîte d'outils. Je ne veux pas submerger non plus. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui s'apprennent sur le tas, mais je pense que c'est quand même important de se poser des bonnes questions avant d'y aller, dans une perspective aussi justement de rétention puis de continuité là, des soins. On en a vu quand même des gens, pas nécessairement au niveau médical, parce que la majorité des gens vont faire soit du dépannage ou un stage avant de prendre un poste au Nord. Mais il y a quand même des gens qui sont déjà arrivés au Nunavik, ont débarqué dans l'avion et ont été un peu sous choc culturel et ont voulu retourner comme le lendemain, là. Donc, ça vaut la peine quand même de bien se préparer. C'est normal, tu sais, c'est normal que ce n'est pas un environnement comme connu, donc c'est normal d'avoir certaines réactions. Je pense que ça vaut la peine de bien se préparer. Puis pour se préparer, un, les stages. On accueille quand même pas mal d'étudiants. C'est sûr qu'avec la pandémie, on a été un peu restreint au niveau des stagiaires. Par contre, si vous êtes intéressé, mon conseil numéro un, c'est vraiment de le laisser savoir très rapidement. On est quand même un milieu de stage très populaire. Ça a quand même une petite dorure, le Nord. Donc, si vous êtes vraiment intéressé, surtout si vous avez une perspective de vouloir prendre un poste, écrivez-nous. Toutes les informations pour le stage sont sur le site de McGill. Ou sinon, je pourrais donner mon contact aussi à nos panélistes de la journée. Donc, ce premier conseil, ça serait ça. Le deuxième conseil, en plus de se renseigner sur la pratique, ça serait se renseigner aussi un peu sur tout le mode de vie. Donc, on a parlé tantôt des postes 34 semaines, 22 semaines. Ça peut paraître peu, mais enfin, on est quand même très souvent sur le territoire. Donc, moi, je viens de finir une séquence de 7 semaines de travail. Donc, il faut quand même se poser les questions de est-ce que je suis confortable à partir 4, 5, 6, 7 semaines de suite. Encore une fois, le stage peut aider à répondre à cette question-là. Mais je pense que c'est juste important de bien le planifier, en fait, pour ne pas se sentir submergé. Puis, il y a plein de petites choses qui vont se passer dans ces 7 semaines-là aussi au niveau médical. Donc, c'est important de s'en parler pour ne pas accumuler non plus la fatigue, mais juste au niveau du quotidien. Par exemple, on a eu un 4 jours où on n'a pas eu ni d'eau usée ni d'eau potable dans notre appartement. Donc, comme c'est du pergélisol, c'est une zone très éloignée, on n'a pas de conduit d'eau usée, on n'a pas de conduit d'eau potable. Tout est livré par camion. Donc, s'il y a un bris de camion, s'il y a une tempête de neige, ça nous est déjà arrivé à l'hôpital d'avoir des affiches en disant « attention aux limites ». Donc, il faut quand même être capable de se projeter dans ce quotidien-là. Ça se pourrait que ça soit un peu plus difficile par moment au niveau juste de la base d'avoir de l'eau et des eaux usées. Donc, ça serait ça mon deuxième conseil, là, c'est juste de se renseigner vraiment sur au quotidien comment ça se passe en plus de la pratique médicale. Pour ce qui est de mes autres conseils plus médicaux en tant que tel, la gestion de l'incertitude, ça fait partie du quotidien du médecin. Ça fait beaucoup partie de notre travail. Comme j'ai dit tantôt, il y a des patients qu'on ne verra jamais, dans le sens qu'on les révise au téléphone avec des infirmiers et infirmières d'un autre village. Donc, il faut gérer cette incertitude-là, puis on ne la gère pas en disant « ah, ça va bien aller », mais juste en posant les bonnes questions, puis en apprenant justement à savoir exactement nos critères, nos red flags. Si on n'est pas sûr, on envoie un avion ambulance, on va les réévaluer, on fait des suivis, mais on met vraiment un filet de sécurité autour des patients pour être sûr d'offrir les meilleurs soins possibles malgré l'éloignement. Donc, c'est tout ça aussi à gérer pour offrir des bons soins. Là, c'est vraiment de tout le temps avoir un esprit critique sur ce qu'on est en train de faire, en fait. Donc, il y a ça. Puis, pour aussi s'aider à offrir les meilleurs soins possibles, comme on est seulement des médecins de famille, c'est vraiment de regarder l'ensemble de la pratique. En médecine, comme n'importe où ailleurs, on a toujours des intérêts plus forts que d'autres. Là. Ça fait partie de la game. Il y a des choses qu'on va trouver plus faciles, mais c'est de ne pas tomber dans le piège comme qu'est-ce qu'on aime déjà. On va vraiment comme réviser ça. C'est vraiment d'aller chercher des formations complémentaires qui vont pouvoir être utiles pour la communauté. Donc, on a beaucoup d'urgences. C'est sûr qu'il y a des formations que je recommande vraiment à tout le monde qui veut aller travailler au Nord. Par exemple, il y a une formation qui s'appelle CASTED pour les attelles plâtrées post-fracture. On se rappelle, on n'a pas d'orthopédiste au Nord, donc on va gérer tout à distance. C'est pas vrai qu'on peut transférer tout le monde à Montréal. De toute façon, il y a plusieurs personnes qui refuseraient, puis deux, ça serait pas très efficace. Donc, il y a quand même des formations supplémentaires en orthopédie qui peuvent être très utiles. Tout ce qui est aussi trauma, on n'a pas de chirurgien en ce moment, presque jamais. On n'a pas d'anesthésiste. On a rarement une inhalothérapeute aussi. Donc, tout ce qui est gestion des voies aériennes, gestion du ventilateur, gestion de tout ce qui est trauma, urgence, ça vaut la peine de vraiment se creuser là-dessus. Et la bête noire de pas mal de monde, c'est l'obstétrique. Parce qu'on n'a pas de spécialiste. Donc, on n'a pas de gynéco-obstétrique. On a des sages-femmes. Ça, c'est une autre très belle beauté là, du Nord. On a des sages-femmes en partenariat Inuit et qui viennent du Sud. Donc, ils travaillent en équipe. Donc, les femmes peuvent accoucher dans leur langue. Les femmes ont quand même une sécurité culturelle. Ceci dit, la majorité des accouchements se passent très bien et est vraiment entre les mains des sages-femmes. Mais ça se peut que comme médecin, on se fasse appeler en disant « Viens-t'en vite, on a une hémorragie postpartum. » Viens-t'en vite, finalement, c'est un siège, je ne sais pas ça va être quoi l'abgare de mon bébé quand il va sortir. Des transports en avion-ambulance aussi, de obstétrique, de grossesse ectopique rupturée. Donc, on a tout le temps l'appui des sages-femmes avec nous, mais tout ce qui est réanimation néonatale, tout ce qui est gestion des cas aigus d'obstétrique, dont les hémorragies postpartum qu'on a parlé, ça vaut la peine aussi d'aller se former. Donc, mon conseil, ça serait aussi ça. C'est de regarder pas seulement nos intérêts, mais de regarder aussi nos forces et faiblesses, regarder c'est quoi les forces et faiblesses de l'équipe, puis d'aller chercher des formations complémentaires à ça. Là, ça ne presse pas tout de suite, là, on ne fait pas tout ça d'un bolus. Il y a certaines formations que je recommande vraiment avant de commencer, comme CASIT, par exemple, c'est super intéressant, puis dès les premières semaines, on a des fractures et tout ça. Mais il y a d'autres formations qui vont s'accumuler au fil du temps selon les besoins de l'équipe, puis c'est bien correct, mais c'est juste de garder ça en tête. De pas juste y aller avec ses intérêts, mais d'y aller avec les besoins de la communauté pour offrir les meilleurs soins possibles. Puis finalement, mon dernier conseil, peut-être que je pourrais dire pour avoir des soins de qualité là, au Nord, c'est justement d'avoir des médecins qui sont impliqués. Donc, moi, j'ai toujours voulu prendre un poste. Je ne voulais pas être dépanneur, même si on a des dépanneurs là, qui reviennent très souvent, mais justement pour avoir cette continuité-là de soins à 34 semaines par année pendant 2 ans, tu commences à avoir un peu le tour là, sur le fonctionnement. Donc, c'est vraiment comme si on veut prendre un poste. C'est correct aussi si vous avez besoin de partir faire un autre travail après quelques années, mais au moins les années que vous êtes sur place, de vraiment être impliqué pour essayer de donner des soins de qualité, tout ça. Ça a été compliqué avec la pandémie. Là, nos ressources ont été très mobilisées pour ça. Par contre, il y a plein de beaux projets là, qu'on essaie de mettre en place et de maintenir aussi pour garantir des soins de qualité. On essaie beaucoup de faire de l'advocacy, dans le fond, d'aller chercher des ressources pour nos patients aussi, pour améliorer les soins. Donc, ça serait peut-être de garder ça en tête aussi que c'est une médecine de région éloignée. Donc, on est vraiment comme un peu des radars sur le terrain aussi de qu'est-ce qui ne va pas. C'est d'essayer de lever les drapeaux quand ça ne va pas et voir qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus pour améliorer les soins de santé.
C'est vraiment intéressant pour vrai. Là. Moi, ça me donne le goût de comme, plus ouvrir mes horizons vers ça, mais par rapport comme au mode de vie de là-bas, là, parce que moi, en médecine familiale, c'est beaucoup la conciliation travail-famille qui est comme toujours le petit point où ce que j'aime aller observer. Là. Fait que comment ça se passe, en fait, là, la conciliation travail-famille? Est-ce qu'il y a des gens, des médecins là-bas qui ont des enfants? Comment ils gèrent tout ça, là?
Oui, on a vraiment un gros profil de personnes différentes au Nord. Donc, on a des gens, dans le fond, que par rapport à leur équilibre comme temps personnel, il y en a beaucoup qui aiment voyager, il y en a beaucoup qui aiment faire d'autres projets. Donc, ça leur libère quand même des semaines pour faire ça aussi à côté. Il y a des gens, effectivement, qui ont des jeunes enfants avec eux. Souvent, qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'ils vont passer par le service de filles au père ou qui ont des jeunes dans leur famille qui vont être mobilisés pour devenir comme nounous au Nord. C'est des gens qui vont peut-être prendre des postes aussi avec moins de semaines pour essayer de concilier ça. Mais on essaie de leur trouver des logements qui permettent d'accueillir tout le monde et d'arranger ça. Puis on se parle aussi entre équipes là, pour justement jauger l'énergie de tous. Donc, comme on est une petite équipe, ça nous permet quand même de faire ça aussi. C'est sûr qu'il y a d'autres médecins, par contre, que leurs enfants sont peut-être un peu plus vieux puis ils ne montent pas tout le temps, mais on a quand même certains de nos billets d'avion qui sont transférables pour ce qu'on appelle des dépendants. C'est un nom assez étrange, mais bon, c'est ça, c'est comme des dépendants au sens de la RAMQ. Donc, s'ils sont déclarés comme dépendants parce que c'est le conjoint ou c'est l'enfant, certains de nos billets d'avion peuvent être transférés à ces personnes-là pour qu'ils puissent venir. Donc, c'est ça. Puis, certains médecins, en fait, ont décidé de continuer à temps partiel au Nunavik pour justement garder cet équilibre-là de famille au contraire, même si ça semble un peu contre-intuitif là, par rapport au Nord-Sud. Mais c'est quand même quelque chose qui est faisable. Souvent, qu'est-ce qu'on voit, c'est que les jeunes enfants, c'est quand même plus facile avant le début de l'école. Mais on a quand même vu des fois des enfants qui sont plus vieux aussi qui restent. Donc, ça se fait. Là. Ça pourrait se discuter aussi individuellement pour donner des trucs. Moi, personnellement, je n'ai pas d'enfants, pas de dépendants. Je les vois aller, je les trouve très bons. Mais s'il y a quelqu'un qui est comme spécifiquement cette question-là, on pourrait leur répondre puis leur donner des pistes.
Super, c'est vraiment bon à savoir là, que c'est faisable au moins.
Oui.
Donc, c'est ce qui conclura en fait le podcast d'aujourd'hui. Je suis vraiment contente et je voulais vous remercier, vous toutes en fait, là, de vous être prêtées au jeu. Puis j'espère que vous avez aimé notre moment de discussion.
Moi, oui. Est-ce que je peux transmettre une question aussi en retour?
Mais oui.
Je vais être contre le podcast. Moi, en fait, je serais vraiment intéressée de voir comme votre exposition, en fait, comme étudiant, étudiante en médecine par rapport à la santé autochtone. Moi, de mon souvenir, quand j'étais étudiante déjà il y a quelques années, c'était quand même assez bon. Je me demandais si c'était toujours en continuité. Est-ce que vous trouvez qu'il y a des failles? Est-ce qu'il y a des choses qui sont comme peut-être moins présentées? D'autres choses peut-être à améliorer, d'autres choses qui sont des bons coups, qui sont déjà en place.
Bien, je peux débuter, là, moi, personnellement, de mon côté. C'est certain que je suis rentrée en médecine durant la pandémie, donc tout ce qui est comme promotion de comme événements, de conférences et tout par rapport à ça, bien, ça a été difficile. On n'a pas eu de stage non plus durant la première année. Fait que honnêtement, si je suis très honnête, moi, j'ai pas eu d'exposition vraiment, là, mais c'est certain que je suis un petit peu comme. J'ai pas été dans un très bon moment, je pense, du processus. Là. Je ne sais pas si les filles voulaient donner leur expérience.
Oui, bien, je peux continuer un petit peu. Là. Je sais que encore là, à cause de la pandémie, ça a été annulé, mais avant la pandémie, normalement, on avait accès à des stages qu'on pouvait faire pendant l'été, si je ne me trompe pas, dans des communautés autochtones. Mais il fallait s'inscrire, les places étaient limitées. C'est vraiment pas tout le monde qui est exposé à ça. Mon opinion là-dessus, c'est un peu qu'en général, je trouve qu'on n'est pas assez sensibilisé, on n'est pas assez exposé d'emblée dans notre formation. Il faut vraiment aller chercher par nous-mêmes l'information, aller aux activités du GISA. Petite promotion par la bande. Mais c'est ça, je pense que d'emblée, c'est un petit peu inclus dans la formation. Il y a un cours au travers de un petit 4 heures de cours dans notre formation sur la santé autochtone, mais sinon, il n'y a vraiment pas grand-chose. Puis je pense que ça pourrait vraiment être amélioré. Puis il y a encore du chemin à faire là-dessus. Là.
Je peux faire un peu du pouce sur ce que Juliette elle a dit. C'est sûr qu'on a un cours, puis dans le cours, on se rend compte qu'il l'améliore d'année en année avec les enjeux qui arrivent au cours de l'année. Fait que ça, c'est vraiment, on voit qu'ils font des efforts, mais encore là, c'est sûr qu'il reste encore certaines petites améliorations qui pourraient être faites. Mais, grosso modo, là, on voit que la faculté, justement, ils ont commencé plusieurs projets, justement, pour sonder les différentes diversités culturelles étudiantes au Vendry pour essayer, justement, de trouver des solutions. Fait qu'il y a quand même beaucoup de projets qui sont en place. Fait que j'ai vraiment espoir que dans les prochaines années, on ait comme plus de sensibilisation faite par rapport aux difficultés vécues dans les communautés autochtones ou juste apprendre un peu plus c'est quoi la réalité des communautés autochtones aussi.
C'est des super bons points. Puis je pense qu'effectivement, ça vaut la peine. Le GISA peut être porteur de ça aussi, là, aller proposer des solutions. Moi, comme quand je parlais des conférences, tout ça, là, c'était vraiment comme très interactif. Mais je pense que ça pourrait se faire quand même en plateforme web, là, ce genre d'activité-là. Fait que peut-être faire le pont même pour que d'année en année, ça soit vraiment comme intégré. Ça, c'était de un. D'autres choses aussi, c'est toutes les ressources qui sont disponibles maintenant, là, comme par rapport aux artistes, tout ça. Je pense que ça vaut la peine de continuer à fouiller ça. Je ne sais pas si l'université peut donner elle-même accès à plus de ressources et promouvoir ça de son côté. Je pense aussi qu'à l'Université de Montréal, on a quand même plusieurs expositions, entre autres avec Stanley Volant, qui est comme associé quand même, qui était venu quelques fois en plus. Mais si l'Université Laval n'a pas un partenariat clairement établi avec certaines personnes, ça pourrait valoir la peine de le mettre en place. Puis justement, par rapport aux stages aussi, là, on a parlé des conférences, tout ça. Les stages pendant l'été, ça s'appelle des stages Saros. En tout cas, c'est écrit Saros, ça se prononce bien même. Mais c'est sûr qu'effectivement, les places sont quand même limitées, puis c'était quand même compliqué, encore une fois, avec côté pandémie. Mais je pense que même à travers l'année, ça pourrait être bien si jamais il y a des systèmes qui sont mis en place pour essayer d'augmenter cette exposition-là. parce que c'est pour ça, en fait, que les stages en région éloignée sont mis en place. C'est que ça paraît quand quelqu'un a une belle expérience là-bas, veut plus y retourner que s'il n'a jamais mis les pieds. Donc, ça vaut vraiment la peine d'essayer de développer ce genre de contact-là pour motiver les troupes un peu plus.
Ben vraiment, je suis vraiment d'accord. Puis, c'est aussi notre collaboration d'aujourd'hui. Ça fait en sorte que comme les gens qui nous écoutent, ben là, ils vont avoir une exposition avec le GISA. C'est en faisant des collabos comme ça que je crois que ça pousse un petit peu plus les gens à élargir leurs horizons. Là. Raphaël, tu voulais parler?
Oui, c'est ça. Dans le fond, je voulais juste te donner un peu plus d'informations aussi sur les stages pour au cas où que les gens qui nous écoutent aient des questions. Là. Il y a les stages Saros, mais il y a aussi les stages organisés vraiment par la faculté. Je ne me rappelle pas du nom exact, là, mais c'est un peu dans la même lignée que les stages à l'international ou les stages avec les populations plus marginalisées, mais vraiment dans la ville de Québec. Fait qu'il y a comme deux options pour aller chercher des stages. Puis sinon, c'est ça, tout à l'heure, je pense que Sarah avait parlé des mini-écoles de la santé qui avaient lieu à Montréal, mais à Québec aussi, on en a une forme, mais c'est plus à Pessamite sur la Côte-Nord, mais c'est ça à cause de la COVID. Évidemment, ça n'a pas pu avoir lieu, là, mais peut-être que ce printemps, on va pouvoir avoir une édition à Wendake, mais encore là, c'est comme en stand-by, ça va dépendre de la situation, ouais. Comment la pandémie va évoluer.
Puis ça, entre-temps, je pense que ça vaut la peine de continuer à lire, voir des témoignages aussi. Au Nunavik, on a Perspective Nunavik, qui est comme notre site Internet, marque de commerce, on va dire, pour essayer de montrer aux gens c'est quoi travailler au Nord. Donc, si les gens sont intéressés, ils peuvent voir certaines vidéos, certaines ressources sur Perspective Nunavik. On a aussi une étude qui a été faite au Nunavik qui s'appelle Ranuilir Pita. Donc, on va épargner le cours d'Inuktitut que j'essaie de prendre, mais Ranuilir Pita, c'est comment allons-nous maintenant? Donc, c'est une étude qui a été faite là, à travers tout le Nunavik qui comparait pour une étude qui avait été faite du même genre auparavant pour voir un peu l'état de santé des populations. Puis, on fait des super belles infographies pour tous les sujets, comme la démographie, la santé pulmonaire, etc., pour donner vraiment des idées de ça se passe comment au niveau santé psychosociale aussi, au Nunavik. Donc, si les gens sont intéressés, ils peuvent chercher le site de la régie régionale du Nunavik. Puis, il y a une section sur, je pense que ça s'appelle « Nos études » ou « Nos ressources ». Puis, ça s'appelle « Ranuilir Pita ». Donc, ça vaut la peine, des fois, même sans être sur le territoire, de juste se donner une idée. Des fois, on peut avoir certains préjugés, on a entendu parler de quelque chose, on ne sait pas trop, mais là, c'est des données quand même qui ont été collectées avec l'aide des communautés directement. Donc, ça peut être intéressant d'un point de vue médical.
Bien, vraiment. Puis, si tu veux m'envoyer les liens, je peux les déposer aussi dans la description du podcast. Fait que pour les gens qui veulent aller fouiller dans toutes ces ressources-là, là, ben, ça va être disponible. Est-ce qu'il y avait autre chose que vous voulez ajouter, d'autres questions qu'on voulait aborder? Où on conclut, qu'on est prêt à conclure. Vas-y, Raphaël.
J'ai peut-être une autre question qui m'a comme popé dans la tête tantôt, mais qui, en tout cas, on avait comme changé de sujet, là, mais plus par rapport à la sécurité culturelle. Je me demandais, c'était comment, justement, ton expérience par rapport à la création du lien médecin-patient, comment tu avais vécu ça? Parce que, de ce que j'ai compris, ça fait comme 4 ans que tu travailles là maintenant. Fait comme, c'était quoi ton évolution
par rapport à ça? Ça fait un peu plus que 2 ans que je travaille là. La sécurité culturelle, c'est quelque chose de très gros. C'est sûr que comme la culture, il y a les individus aussi, il y a la sous-culture médicale qui rentre en conflit en plus. Il y a le fait que beaucoup, on est des francophones qui traduisons vers l'anglais. Et là-bas, Nunavik, dans le fond, il y a certaines personnes qui ont leur langue seconde, en fait, c'est le français. À partir de la 3e année du primaire, ils peuvent choisir soit l'anglais, soit le français. Mais règle générale, la langue de communication avec comme les Ralunat, le monde de l'extérieur, c'est l'anglais. Donc, c'est quand même la traduction pour les deux bords, en plus d'avoir des termes médicaux qui est déjà un enjeu de base avec la structure médicale. Donc, c'est sûr qu'on a plusieurs ressources quand même mises en place qui ne sont pas parfaites. Bien, il y a beaucoup de monde qui parle très bien anglais et qui sont capables de se comprendre. Il y a certaines personnes qui parlent presque exclusivement Inuktitut. À ce moment-là, on a une équipe d'interprètes. Donc, c'est des gens qui sont engagés par Inuktitut qui vont nous aider à traduire, interpréter littéralement qu'est-ce que la personne veut dire. C'est sûr que c'est des enjeux en soi, parce qu'on se rappelle, c'est une très petite communauté. Donc, ton interprète, ça se peut que ce soit ton ami, mais ça se peut aussi que ce soit dans la famille de quelqu'un que tu apprécies moins, qui a peut-être des enjeux passés. Donc, on essaie d'être sensible à ça quand même, puis les gens le savent, les interprètes le savent, puis on essaie de trouver quelqu'un d'autre si vraiment c'est un enjeu. Mais il y a tout ce côté-là aussi comme par rapport à la confidentialité qui ressort. Mais quand même, on a quand même un bon service, c'est quand même vraiment très important. L'autre enjeu aussi, on a parlé un peu tantôt des sages-femmes inuits. Ça, c'est un super gros pilier de la sécurité culturelle. Ça permet aux femmes non seulement d'accoucher dans leur communauté, en fait d'accoucher là où il y a des maternités. Donc, il y a une maternité à Saluit, Inujuak et Pouvernitouk. Mais par exemple, si j'ai quelqu'un à Iwuivik qui a de la famille à Saluit, tu n'as pas besoin nécessairement d'aller accoucher à Pouvernitouk. À l'hôpital, tu peux aller accoucher à Saluit avec les sages-femmes de Saluit. Ça permet quand même de ne pas évacuer tout le monde pour aller accoucher à Montréal et médicaliser l'ensemble des accouchements. Donc, c'est sûr qu'il y a ça aussi qui est très bien. Même un peu plus large, tu sais, le conseil d'administration de Inuit Civic, personnes inuites qui sont sur le conseil. Au niveau même de nos médévacs, il y a quand même quelques pilotes qui viennent eux-mêmes des communautés. Donc, ça va quand même assez large. On n'a pas, l'autre chose aussi que je n'ai pas mentionné plus tôt, mais on n'a pas d'ambulanciers en tant que tel. On a ce qu'on appelle des first responders qui ont une formation assez courte, mais comme locale. C'est vraiment des personnes qui, des communautés qui vont nous amener des patients. On a quand même quelques postes d'emploi là, qui sont occupés par des gens même de la communauté. Donc, que ça aide aussi côté sécurité culturelle. C'est sûr qu'on voudrait plus. Mais il y a quand même des enjeux là, même à former des gens, des communautés pour les soins de santé. L'enjeu principal que je vois, que j'avais déjà demandé à un jeune adolescent qui avait l'air vraiment bien motivé par l'interprétation de sa fracture sur sa radiographie, mais c'était toute la gestion des urgences en fait. C'est quand tu es quelqu'un de la communauté, mais que finalement la personne qui arrive dans ton urgence, c'est ton ami, c'est ta mère... que tu es une petite équipe médicale, une petite équipe infirmière, c'est sûr que ça peut être difficile, mais on a quand même eu des infirmiers, infirmières, des communautés dans le passé, des fois qui travaillaient dans d'autres axes, par exemple le diabète, des choses comme ça. Mais ça, je pense que c'est un des enjeux qu'on essaie de travailler le plus pour augmenter la sécurité culturelle, d'avoir le plus de gens possible des communautés de travail pour le centre de santé. Mais plusieurs enjeux, ça prend quand même un petit moment là, à se rendre là.
Super. Fait que ça, c'était vraiment une belle réponse. Je ne sais pas si vous aviez d'autres choses à rajouter par rapport à ça, les filles. Non?
Moi, j'ai juste une mini-bribe rajouter pour conclure là-dessus sur un... Tu sais, tantôt, je parlais comme conseil d'essayer d'imaginer du quotidien, là, puis là, j'ai parlé du manque d'eau, puis du manque d'eau usée. Mais il y a beaucoup de choses. Tu sais, les gens, souvent, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'on fait dans nos temps libres là-bas? Écoute, même pas le temps d'y penser, tu as tout le temps occupé à faire quelque chose. on est des petites équipes, on est soudés, il y a plein d'activités. Même dans le temps des fêtes, il y a plein d'activités organisées par les communautés en tant que telles. On fait du ski de fond l'hiver, on fait du fat bike, quand même une bonne proportion des gens qui vont courir, on a des kayaks, on fait plein d'affaires. Donc, je pense que ça aussi, c'est sûr que si on s'adresse à des gens qui, par exemple, ils aiment ça aller au théâtre à chaque deux jours, peut-être qu'il va falloir changer d'activité pour s'adapter au Nord. Mais outre ça, tu sais, on a quand même une vie sociale assez remplie là, au Nunavik. Donc, juste pour ne pas trop inquiéter que vous allez être seul chez vous, pas d'eau et pas d'activité. Là. Vous allez peut-être manquer d'eau un petit peu parfois, mais vous allez avoir des activités.
Oui, c'est ça, parce que tu sais, la région en tant que telle, ça doit être magnifique là, tu sais, de juste explorer ça, puis les sports d'hiver aussi, là, ça doit être vraiment, vraiment cool pour vrai.
Oui, c'est vraiment beau. On fait du camping aussi, des feux.
Wow!
Plein de choses, oui. Puis les aurores boréales sous les feux.
Ah oh, oui!
Je vais faire rêver un petit peu pour conclure le podcast.
Oui, hein? Ben, je pense que c'est pour vrai. Personnellement, moi, ça m'attire vraiment beaucoup, là, juste de comme... C'est quelque chose que j'aimerais clairement essayer au moins. Fait que je pense qu'on va conclure avec ça aujourd'hui. Encore une fois, je vous remercie beaucoup. Puis c'était vraiment plaisant d'avoir cette discussion-là avec vous. Donc, on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode du Balade Omni.